Kezako.
Kezako.
Et vous trouvez ça drôle?
Kezako?
Ah non, 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 moi non plus.
Kezako, Marine Gabory, Mathilde François, sur Sun.
Bonjour et bienvenue dans le premier Kezaki de cette saison 2025-2026. Au fur et à mesure des années, nous avons interviewé de nombreuses personnalités qui font l'actualité de Nantes et de sa région. Lunettes rondes et sourire jovial, nous poursuivons aujourd'hui notre galerie de portraits avec Élie Comins, directeur du lieu unique, lieu emblématique de la culture à Nantes. Bonjour Élie.
Bonjour.
Alors Élie Kezaki, qui êtes-vous ?
Vaste question quand même, hein. Mais actuellement je suis effectivement directeur du lieu unique qui est la scène nationale de Nantes et qui est un lieu très vivant, bouillonnant avec du théâtre, de la musique, de la danse, des expositions, des ateliers, des résidences d'artistes, des festivals, etc. Un lieu qui vit toute l'année et qui participe à l'animation culturelle très dense de Nantes.
On va prendre ce temps pour venir découvrir ensemble en fait votre parcours qui vous aide un peu plus en profondeur. Et en préparant cet échange, j'ai découvert que vous étiez donc formé initialement en sciences politiques et en histoire. Alors qu'est-ce qui a été le déclic qui vous a amené vers les arts et vers la direction du lieu unique ?
Alors c'est peut-être deux questions un peu différentes. Il y a une manière très quotidienne de dire les choses qui est que j'ai l'impression que j'ai commencé à écrire... par un bel été où je m'ennuyais un tout petit peu à la campagne, j'ai écrit une pièce de théâtre, voilà, et comme le veut un peu le cliché, je l'ai mise dans un tiroir pendant quelques années, et puis elle est ressortie un jour, et puis elle a vécu un peu sa vie, et les choses ont commencé de là. Donc je dirais que c'était pas du tout quelque chose de réfléchi sur le long terme, c'était assez spontané. Après, avec le recul, peut-être qu'on peut se dire que j'ai un intérêt pour... pour cette situation très politique, finalement, au sens fort du terme, qu'on trouve dans un théâtre, qui est quand même qui parle, qui se tait, où est le pouvoir, comment est-ce qu'on le distribue.
D'accord, mais en fait, vous avez eu donc plusieurs vies professionnelles avant d'être directeur du lieu unique. Vous êtes passé par l'enseignement, c'est ça ?
J'étais à l'université, donc effectivement, je m'intéressais à l'histoire sociale des sciences et des techniques. Donc...
Aujourd'hui, le lieu unique, est-ce que, en quelques mots, vous pouvez venir nous décrire quel est votre projet ? Voilà, vous avez commencé à en poser les bases, hein, quelques mots-clés précédemment, mais un peu plus, peut-être un peu plus en profondeur.
Oui, alors c'est un projet qui est d'abord centré sur... la création vraiment la plus actuelle, et quand je dis création, c'est ce qu'on peut s'attendre à trouver, c'est-à-dire du théâtre, de la danse, de la musique, des arts visuels, mais c'est aussi plus largement tous les endroits où des choses s'inventent dans une définition très très élargie de la culture. Donc ça peut être la poésie sur les réseaux sociaux, ça peut être plein de choses dans l'espace urbain. Donc on essaye de garder cette liberté, ce côté très très vivant qu'a le lieu unique et qu'on a la chance d'avoir de manière, je dirais, assez spontanée. Hein. C'est un lieu où il y a toujours plein de gens, où il se passe plein de choses. Et donc c'est un peu de tout cet environnement-là aussi qu'on essaye de profiter et qu'on veut mettre en valeur.
Alors vous avez parlé d'artiste, mais vous avez vous-même un parcours, une carrière d'artiste. Est-ce que, alors de ce que j'ai compris, vous êtes auteur dramatique, mais d'une manière un petit peu singulière. Est-ce que vous pouvez venir nous expliquer ce que c'est pour vous être un auteur dramatique ?
J'ai commencé par écrire vraiment des pièces de théâtre, au sens plutôt habituel du terme, enfin des objets qu'on pouvait imprimer, mettre sur une feuille, etc. J'ai eu la chance de les voir être mises en scène, produites. Ce qui m'a frappé en les voyant, c'est que finalement, j'avais l'impression que dans ce rapport un peu statique du texte à la scène, finalement, je perdais ce qui, moi, m'intéressait le plus, qui était le côté spontané, presque accidentel parfois. C'est-à-dire, pour moi, la magie du plateau, c'est quand il y a quelque chose d'imprévu qui se passe. Et je me suis dit, comment est-ce que je peux trouver une forme d'écriture qui épouse ce côté-là de l'imprévu au plateau. Et donc, j'ai commencé à travailler avec des ordinateurs pour fabriquer des textes qui en fait sont des textes qui ont des aspects imprévisibles ou en tout cas qui se combinent d'une certaine manière ou qui se déforment d'une certaine manière sur le plateau. Alors c'est un peu abstrait dit comme ça, mais un exemple, c'était que par exemple, on suivait des communautés de gens sur les réseaux sociaux, souvent pris dans des événements particuliers, qu'ils soient politiques, qu'ils soient naturels, une éruption volcanique, etc., Et je redistribuais un peu comme une sorte de DJ textuel, si j'ose dire. Je pouvais diffuser mes textes un peu en direct vers les performeurs, vers les acteurs et les actrices qui étaient sur scène. Donc c'est des recherches comme ça sur un côté un peu spontané et direct dans le rapport au texte.
C'est de l'improvisation ou c'est écrit alors du coup ?
Alors c'est écrit, mais c'est effectivement à la manière plutôt d'une partition ou même d'un jeu vidéo. C'est-à-dire qu'on se promène dans quelque chose qui n'est pas un livre, comme classiquement, mais plutôt une carte, une arborescence.
Donc, ce n'est pas possible de voir, en fait, votre travail d'artiste imprimé, quelque part.
Oui, effectivement, cet aspect-là de mon travail n'est pas imprimable, effectivement. Ouais, ouais.
Donc, comment on fait pour diffuser quelque chose qui n'est pas imprimable ?
Très clairement, il n'y a que moi qui allais pouvoir mettre en scène des objets aussi particuliers.
D'accord.
Et donc, j'ai commencé à mettre en scène. Et ce qui s'est passé, pour le résumé, c'est qu'en mettant en scène, je me suis rendu compte que ces objets-là, en fait, déplaçait le spectateur. C'est-à-dire que ça marchait moins bien quand le spectateur était assis sur un siège face à une scène. Et ça marchait beaucoup mieux quand les spectateurs étaient en train de marcher, quand ils utilisaient leur smartphone, par exemple, ou quand on les mettait, je sais pas, dans une piscine ou à 7 heures du matin. Enfin, plein de systèmes pour dérégler les codes du théâtre. Et ce dérèglement m'a mené de plus en plus à parler à des gens qui travaillaient dans les lieux, des programmatrices, programmateurs, parce que ça posait évidemment plein de questions très vite. Et donc c'est un peu comme ça que je suis arrivé à m'intéresser au fonctionnement des lieux, parce que pour faire tourner mes pièces, il fallait que les lieux s'inventent un peu des systèmes nouveaux.
Vous avez beaucoup parlé du sujet du numérique, des réseaux sociaux, là, à l'instant. Qu'est-ce que le numérique dit et vient apporter à l'art ou dans les pratiques culturelles, hein ? C'est une fin ? C'est un moyen ? C'est quoi pour vous ?
Nous, dans les lieux culturels, comme ici à la radio, on se pose beaucoup la question de l'attention, de comment on écoute, comment on regarde, comment on lit. Le numérique a manifestement énormément déplacé cette question de l'attention, hein, je pense au livre d'Yves Citon qui s'appelle « L'écologie de l'attention ». C'est vraiment une question qui mérite d'être posée aujourd'hui. Est-ce qu'on est en mesure aujourd'hui de maintenir ces formes longues et qui requièrent une attention continue ? Est-ce que c'est autre chose ? Je ne pense pas du tout que ce soit moins bien aujourd'hui. Mais par contre, je pense que c'est vraiment en train de se déplacer. Donc forcément, l'art et la culture en général reflètent ces évolutions de manière très massive. On a bientôt le nouveau spectacle de Vima Laponce qui s'appelle Onda Romance, dans lequel elle traverse 150 états émotionnels très, très, très rapidement. Et évidemment, c'est un peu à la manière de ce qui peut nous arriver quand on est en train de scroller sur un réseau social à vitesse accélérée et de sauter du coq à l'âne de manière comme ça, perpétuelle.
Il y a un petit point sur l'actualité du lieu unique, là, en cet automne. Quels sont les prochains spectacles, peut-être, à venir, à recommander à nos auditrices ?
On entre là dans une période d'activité très très dense au lieu unique, donc il y en a vraiment un peu pour tous les goûts et pour tout le monde. Il y a au niveau musique des super concerts qui sont en train d'arriver. Panda Bear, un grand grand nom de la musique indé électro qui va arriver le 30 octobre. The Next, le 20 octobre. En danse, des spectacles très très forts avec Tatiana Julien notamment, qui arrive avec Soulèvement et puis En Fanfare. À la fin de la semaine. Et puis notre grande exposition de l'automne qui va s'appeler Dans les plis des cartes et qui est une exposition sur les cartes comme médium pour imaginer et fictionner l'avenir. Et plein, plein d'autres choses, d'ateliers en tout genre, de soirées dans le club, etc., etc.
Merci beaucoup, Élie. On va poursuivre maintenant avec le rituel questionnaire de Proust mixé avec celui de Bernard Pivot. Est-ce que vous êtes prêt ?
Je suis prêt.
Votre mot préféré ?
Je crois que je n'ai pas de mot préféré. Il serait probablement en anglais, parce que l'anglais, c'est ma langue maternelle. Donc, il faudrait trouver un mot en...
Why not ?
En anglais. Mais why not, c'est pas mal, why not, je prends.
Le mot que vous détestez ?
Oh, on n'a pas envie de détester les mots, globalement. Mais il y a des tics de langage, disons, dont on se passerait. J'essaie de ne pas dire du coup en ce moment, par exemple.
Votre drogue favorite ?
Je ne fais pas l'usage de drogue, donc je ne sais pas quelle est ma drogue favorite.
Vous n'êtes pas un drogué, c'est parfait. Le son, le bruit que vous aimez ?
Le son du public qui arrive dans une salle de spectacle, ça c'est super. Et je le dis parce que là, on vient de retrouver la salle dans sa grande forme cette semaine. Et c'était vraiment un bonheur de retrouver le public dans la salle.
Votre geste favori ?
Je crois qu'ouvrir un livre, c'est pas mal quand même.
Votre juron, gros mot ou blasphème favori ?
Ah, alors ça aussi, ça va être en anglais parce que l'anglais, c'est la langue des émotions premières. Donc un bon fuck, je dirais que c'est pas mal.
La plante, l'arbre ou l'animal dans lequel vous aimeriez être réincarné ?
Un animal, je pense, marin.
Votre héros ou héroïne ?
J'ai du mal à réfléchir comme ça parce que je ne m'en vois pas, mais je pense que ce serait probablement quelqu'un comme Ada Lovelace, qui était une des premières programmatrices et qui entrevoyait déjà des changements qui nous affectent aujourd'hui, dès le 19e siècle.
Le don de la nature que vous aimeriez avoir ?
La capacité à créer un matin tranquille et brumeux, ce serait bien.
Et enfin, Élie, qu'est-ce qui est beau ?
Qu'est-ce qui est beau ? C'est peut-être une question que moi, je ne me pose plus tellement. C'est-à-dire que je crois que ce qui est beau, c'est peut-être quelque chose qui advient quand on ne se pose pas la question.
On finira là-dessus. Merci beaucoup, Élie, pour cet échange qui vient d'ouvrir plein d'horizons nouveaux sur la manière d'aborder la culture et les pratiques artistiques. On poursuit en musique avec le groupe Panda Bear, dont vous avez parlé à l'instant, et qui passera dans quelques jours au lieu unique, avec son morceau Fairy Lady. Fairy Lady, c'est tout de suite sur Sun. We'll be right back. Voilà, Kezako, c'est terminé pour aujourd'hui. Mais promis, on se retrouve dans 15 jours avec un nouveau mot à tourner, à retourner et à décortiquer. D'ici là, faites donc un tour du côté du lieu unique pour un café, un concert, un spectacle et tout simplement pour prendre un bon bouillon de culture. Bonne semaine sur Sun.
Kezako, en replay et en podcast sur mySun et leSonUnique.com.